Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Chaque vendredi et c'est nouveau, les libraires de Calligramme à Cahors vous donnent leurs idées de lecture. Aujourd'hui, c'est Nathalie qui nous parle de ses deux coups de cœur pour cette semaine en deuxième partie d'émission, histoire de vous donner envie de lire durant ce week-end de confinement. Mais surtout aujourd'hui, 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Alors la convention a été ratifiée il y a 30 ans par tous les pays, sauf un. Mais lequel? Eh bien, vous le saurez en écoutant l'interview que nous avons fait avec Serge Bourcard. Il est le délégué de l'UNICEF du Lot. Alors avec lui, on parle des droits de l'enfant et du rôle de l'UNICEF dans le monde, mais aussi en France. Soyez les bienvenus, c'est le MAG sur CFM Cahors.
Ben oui, on connaît effectivement l'UNICEF qui est une organisation non gouvernementale qui dépend de l'ONU. Et puis surtout parce qu'on a toujours ce souvenir de ces cartes de vœux, de ces cartes que l'on achète pour les fêtes de fin d'année. Malheureusement, cette année, pour l'UNICEF et comme pour beaucoup d'associations, ça change un petit peu. Alors on va en parler justement avec le délégué territorial de l'UNICEF dans le Lot, c'est Serge Bourcard. Bonjour Serge.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler effectivement quelles sont les actions de l'UNICEF déjà pour mémoire?
Alors, UNICEF, c'est une mission des Nations Unies qui met en valeur, qui défend les droits de l'enfant. Et l'action locale de l'UNICEF, d'UNICEF 46, c'est des actions éducatives pour faire connaître ses droits. Je rappelle les grandes rubriques de droits des enfants, le droit à l'identité et à la famille, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la protection et le droit à la liberté de conscience et d'expression, ce qui est actuellement sujet d'honneur.
Alors, est-ce que on peut rappeler quels sont les moyens, les ressources de l'UNICEF?
Alors, UNICEF n'a comme ressources que les dons. Et chaque année, nous organisons également des événements et des ventes pour recueillir le maximum de contributions au cours de, par exemple, à la fin d'année, vendre des calendriers, des cartes de vœux. Voilà. Et cet argent part directement dans les pays où les enfants ont des besoins. Quand vous donnez 1 euro, ça correspond à 10 vaccins. Et les frais de fonctionnement de l'UNICEF sont quasiment ridicules, inférieurs à 1%.
Et donc on rappelle que tous ceux qui font partie de l'UNICEF, par exemple 46, puisque nous en sommes là, vous êtes tous bénévoles.
Absolument. Pas de professionnels.
Alors, voilà pourquoi on en vient à ça. C'est qu'effectivement, vous êtes en train de rappeler qu'habituellement, vous vivez des dons, qu'habituellement, vous faites des actions pour vendre des objets au profit de l'UNICEF. Sauf que cette année, c'est spécial.
Voilà, cette année, nous sommes obligés de vendre à distance. Donc, nous avons un site internet, unicef46.com, sur lequel vous pouvez consulter le catalogue des objets qu'on a à vendre, nous, puisqu'on avait passé nos commandes avant le confinement. Et donc, vous pouvez nous commander et on organise ensuite la délivrance des produits au niveau de notre local à l'hôpital le mercredi. Enfin, tout ça est expliqué sur le site unicef46.com.
Voilà, donc allez-y, hein, et puis même, de toute façon, on peut le recevoir chez soi, hein, on peut le commander à distance.
Non, il faut venir prendre livraison, c'est du click and collect, voilà.
C'est le terme qu'on connaissait un petit peu avant et que maintenant on entend bien souvent. Cette semaine du 16 au 20 novembre, c'est la semaine des droits de l'enfant. Parlez-nous-en.
Alors, cette semaine des droits de l'enfant, elle met en valeur la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée, adoptée par les Nations Unies en 1989. Cette convention a été ratifiée par tous les pays du monde, sauf un. Je vous laisse deviner lequel n'a pas signé.
La Corée du Nord ?
Perdu. Les États-Unis.
Non.
Absolument. Parce qu'aux États-Unis, on peut encore emprisonner des enfants à vie et les condamner également à mort.
Ça veut dire que, là je reviens juste à ça, ça veut dire que d'autres pays que l'on croit sous dictature ont signé cette convention ?
Voilà, ils ont tous signé cette convention, ratifié, ce qui ne veut pas dire qu'ils appliquent intégralement tous les droits dans leur intégralité. Mais enfin, c'est un texte qui permet justement de faire avancer ces droits. Et le rôle de l'UNICEF, c'est de faire connaître cette convention, de faire connaître ses droits. Même dans notre pays, il y a des droits des enfants à faire valoir. Je pense en particulier aux droits des enfants migrants, qui actuellement sont encore un peu bafoués chez nous. Et donc nous avons ce travail de faire connaître les droits, en particulier au niveau des enfants, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées.
Alors, on va voir effectivement dans quelques instants comment vous allez faire maintenant dans cette période Covid. Par contre, j'aimerais qu'on s'arrête sur un truc, sur un point. Vous dites là les droits des enfants, par exemple migrants, est bafoué. Comment ? Expliquez-nous comment ils peuvent être bafoués ici en France. Parce qu'on est quand même reconnu, on dit ici la France est le pays de la liberté. Et au final, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont encore améliorées. Lesquelles ?
Alors la première situation anormale, ce sont les enfants migrants qui sont mis en rétention avec leurs parents. Aucun enfant ne devrait se retrouver privé de liberté. Et ces enfants peuvent passer des mois entiers en rétention, dans des centres de rétention, ce qui est un gros traumatisme pour eux, et en plus de ça, ce qui les empêche d'accéder à l'éducation, par exemple.
Ça fait partie de la convention. Le fait qu'ils ne doivent pas être privés de liberté, ça fait partie de cette convention.
Bien entendu, à moins d'avoir commis des délits ou des crimes, aucun enfant n'a le droit d'être enfermé pour des raisons administratives. La deuxième situation qui nous paraît anormale, ce sont les enfants qui sont en attente les enfants migrants qui sont en attente de statut. C'est qu'un certain nombre d'enfants arrivent sur notre sol et on ne sait pas quel âge ils ont. Et en attendant d'être déclarés comme mineurs et donc de bénéficier des droits des enfants, ils sont placés dans des centres. Et pendant toute cette période probatoire, ils n'ont pas droit à l'éducation, ils n'ont pas droit à accéder au sport, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres enfants.
Pourquoi, dans ce pays comme la France, on en arrive à ça ? Qu'est-ce que disent les autorités françaises comme excuse ?
Que c'est compliqué. Mais on comprend bien que ça soit compliqué. Ces enfants, on ne sait pas s'ils ont 16 ans ou s'ils ont 19 ans. On comprend bien que ça soit compliqué, mais il y a des moyens qu'il faudrait mettre en place pour, par exemple, leur dispenser un enseignement en attendant qu'ils soient déclarés ou majeurs ou enfants. Pour ce qui est des enfants qui sont mis dans des centres de rétention, on n'a pas la solution, puisque les parents eux-mêmes sont mis en rétention. Est-ce qu'il faut... on ne va pas accepter non plus de séparer les enfants des parents. Donc on comprend que ça soit très compliqué, mais pour l'instant, on ne peut pas admettre que des enfants soient placés, soient privés de liberté. Pardon.
Parce que dans cette convention des droits de l'enfant, l'enfant est considéré comme tel jusqu'à quel âge ?
L'enfant, on est enfant jusqu'à 18 ans.
Dans tous les pays signés par la convention ?
Absolument.
Donc là, du coup, on se retrouve avec une semaine où vous allez pouvoir, en règle générale, donner des informations sur les enfants qui soient... Alors c'est un peu, j'ai envie de dire, paradoxal, parce que les enfants, si vous allez dans les collèges et les écoles, ne sont pas privés de liberté. Quel est le but de cette action, alors ?
Ah, nous informons les enfants de leurs droits. Je pense, par exemple, au droit à la protection. Beaucoup d'enfants actuellement se plaignent de violence ou de harcèlement. Donc nous intervenons pour dire aux enfants qu'ils ont le droit à être protégés de ces violences. Nous intervenons sur le droit à la santé. Nous intervenons sur le droit à l'éducation. Nous intervenons... Nous essayons de faire connaître tous ces droits aux enfants pour qu'ensuite, eux, en tant que citoyens, plus tard, puissent les porter.
Alors là, est-ce que vous avez entendu, vous, pendant cette période de confinement, été alerté que l'enfance était en danger par cette période de confinement ? Alors peut-être moins en ce moment parce qu'ils vont à l'école, mais par exemple pour le premier confinement ?
Bien entendu, il est certain que les enfants souffrent plus de la crise sanitaire et économique que les adultes, comme dans toute situation de crise, sont les enfants qui trinquent en premier. Et donc on sait que les enfants, par exemple, dans les milieux modestes, très modestes, souffrent beaucoup de la crise économique, beaucoup plus que les adultes. On sait que les enfants des milieux défavorisés ont beaucoup plus souffert de la fermeture des écoles, des collèges et des lycées que les enfants qui ont derrière eux des parents éduqués qui leur donnent du temps. Voilà, donc oui, il y a des inégalités qui se creusent au niveau de l'enfance et de la petite enfance et qui sont en rapport avec cette crise.
Alors Serge Bourcard, en discutant avec vous, vous avez balayé une image que j'avais en moi de l'UNICEF, et comme beaucoup d'ailleurs. L'UNICEF, on a souvent cette image d'une association qui intervient aussi dans les pays d'Afrique. Voilà. Mais là, vous êtes en train de nous dire, alors vous allez me dire, vous devez confondre avec l'UNESCO, mais mine de rien, l'image UNESCO-UNICEF est quand même très, très liée dans le mental des gens. Et là, vous êtes en train de me dire qu'à l'UNICEF, vous agissez également ici, en France, pour les enfants de France.
Oui, bien sûr. Notre mission prioritaire, c'est d'aider les enfants dans le monde. Parce qu'évidemment, nous sommes quand même un pays largement favorisé. Donc nous intervenons pour vacciner, par exemple, contre la poliomyélite, la rougeole, etc. La moitié des vaccins dans le monde faits chez les enfants viennent de l'UNICEF. Ça, il faut le savoir. Mais on ne se désintéresse pas des enfants sur notre sol. Et je parlais tout à l'heure des enfants migrants, bien entendu. Il faut défendre ces enfants. Et puis nous avons surtout un rôle éducatif vis-à-vis de nos enfants pour faire en sorte qu'en tant que citoyens, par la suite, ils puissent agir sur le destin des enfants chez nous, mais des enfants du monde.
Alors, cette semaine de l'enfance, habituellement, vous allez dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Mais là, du coup, vous ne pouvez pas le faire. Alors, quelle solution de remplacement vous avez mis en place?
Alors, nous avons mis en place nous sommes positionnés sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et nous avons mis en place des quiz chaque jour de la semaine prochaine. Il y aura un quiz différent. Le lien sera accessible directement par les réseaux sociaux. Chaque quiz portera sur un des droits des enfants. Et puis, parmi ceux qui auront répondu à tous les quiz et qui auront tout juste, seront tirés au sort des gagnants. Il y a une vingtaine de places de concerts offertes par les docs qui sont à gagner.
Évidemment, quand les concerts auront repris. Hein. Pour l'instant, c'est un peu coincé, mais vous pourrez les garder pour les concerts. Donc, je rappelle, c'est le site unicef46.com et sur les réseaux sociaux, j'imagine, c'est unicef46 aussi.
Hein. Voilà, unicef46 partout.
Eh bien, écoutez, voilà. Donc, du coup, n'hésitez pas, je le répète, à aller visiter aussi pour voir le catalogue en ligne pour acheter les produits de fin d'année que vous achetez habituellement. Ou pas d'ailleurs, mais puisque maintenant on est dans une période où on ne sait pas encore si on fêtera Noël tous ensemble, eh bien envoyez une carte UNICEF pour dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et en même temps, vous ferez une bonne action. Le site, hein, c'est unicef46.com. Et j'étais avec Serge Bourcard, qui est donc le délégué territorial de l'UNICEF dans le Lot. Merci Serge.
Merci beaucoup.
Et dans un instant, nous allons à la librairie Calligramme pour les coups de cœur de la semaine de Nathalie. Deux livres qu'elle va nous présenter. Et sachez que si ça vous intéresse, vos libraires, il y en a beaucoup. Donc vous notez les références qui seront sorties et vous les commandez en click and collect. C'est pas facile à dire ça quand même. Vous êtes dans le mag, voici Michael Field en version remix Tubular Bells sur CFM Cahors.
La connerie, c'est comme le judo. Il faut se servir de la force de l'adversaire.
CFM. L'esprit rock.
Qu'est-ce qu'on va lire ce week-end? Eh bien justement, on va essayer de le savoir grâce à notre équipe de libraires, à la librairie Calligramme de Cahors. Ils lisent énormément et là, ils ont sélectionné des choses pour vous. Alors aujourd'hui, c'est avec Nathalie qui est avec nous. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah écoutez, malgré les conditions, en pleine forme.
Bon bah c'est très bien, c'est-à-dire que tu as un peu plus de temps pour lire?
Alors non, je n'ai pas un peu plus de temps pour lire parce qu'en fait, quand on est confiné et qu'on fait du click and collect, pour le libraire, c'est beaucoup plus de travail et moins de monde. Mais on reste ouvert et c'est très important. Les Cadurciens jouent le jeu. Mais comme tout bon libraire, on lit le soir et le week-end.
Exactement. Et en plus, je sais que là, j'ai cru comprendre. Alors, vous n'allez pas me croire, mais je crois qu'il... Combien de livres par semaine, toi, personnellement?
Alors, ça va dépendre, mais en principe, si c'est un gros pavé comme le dernier Mauvigné, il faut une semaine pour le lire, en tout cas moi. Autrement, ça va être sans problème 2 livres par semaine.
Bon, bah alors du coup, c'est le nombre de livres que tu nous as prévus, tiens, justement, pour ce week-end, ou peut-être comme idée cadeau. On commence avec ce livre de Nicolas Delot, ça s'appelle des rêves à tenir.
Ça s'appelle Les rêves à tenir, c'est édité chez Grasset. Alors, je ne l'ai pas choisi parce qu'il a été prof de français. Ici à Clément Marot. Je l'ai choisi parce que c'est un roman qui fait du bien. D'abord, c'est un roman qui est bien écrit. Ça, c'est important. Et en fait, des rêves à tenir, quand on lit le roman, il faut constamment avoir en tête le titre. Donc, il y a deux histoires dans ce roman. La première, c'est une histoire d'une bande un peu de bras cassés, en tout cas de personnages adorables et hauts en couleur. Qui se retrouvent tous les soirs dans un bar d'un port de pêche et qui veulent sauver le monde, ou en tout cas sauver la langouste, puisqu'ils s'appellent partisans de la langouste. Donc ils parlent beaucoup, ils agissent peu, les portraits sont croustillants. Il y a aussi un très beau portrait de femme, il y a une jeune femme dans le groupe. Et étonnamment, alors qu'ils parlent beaucoup et qu'ils ne font rien, par le plus grand des hasards, ils vont s'embarquer dans une aventure absolument extraordinaire, une aventure humanitaire qui va les porter très loin et très haut. Et donc ce groupe-là, un peu foufou, on va le voir, va d'une certaine manière tenir ses rêves. Toujours dans ce roman, toujours dans ce petit bar de pêche, un soir, il y a Job qui débarque. Job, ça fait 30 ans que personne ne l'a vu. Et Job est relativement silencieux. Il se contente de se mettre à côté de la fenêtre et de boire son whisky, de crayonner sur un petit carnet. En fait, toute la question que les autres se posent, en tout cas ceux qui l'ont connu avant qu'il ne parte, c'est pourquoi est-il parti? Pourquoi est-il revenu? On comprend vite que lui aussi avait des rêves à tenir. Et je vous laisse donc évidemment découvrir ce qui va se passer. Alors pourquoi ce bouquin? Déjà parce que je trouve, comme tout libraire indépendant, ce qui est bien, c'est de porter des livres, en tout cas de vous parler des livres dont on ne parlera pas forcément dans les médias, ou en tout cas peu. Et ça sera toujours, en tout cas souvent, le but de cette chronique, vous faire découvrir des auteurs qui sont moins mis en avant. Parce que c'est un bouquin qui fait énormément de bien en ce moment, qui est très bien écrit.
Et... C'est ce qu'on appelle un roman feel-good?
Non, alors ce n'est pas un roman feel-good. Un roman feel-good, c'est vraiment écrit pour faire du bien. C'est des histoires relativement simples. C'est toujours très agréable à lire, c'est le but du jeu. Mais la trame est souvent plus ou moins quand même identique. Non, non, c'est un roman qui donne de l'énergie et surtout de l'optimisme en l'humanité.
D'accord. Donc, à découvrir, parce que j'imagine que finalement, ces gens qui ne font rien habituellement, là, se retrouvent à vouloir à bouger et malgré eux, quoi.
Alors, qui ne font rien, en tout cas, pour sauver les langoustes au début, puisque ce sont des gens qui sont dans la vie active. C'est des bras cassés, mais ce n'est pas des gens qui sont à marge de la société. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est
une bande... Des rêveurs ?
C'est des rêveurs, exactement. Voilà. C'est des rêveurs qui vont faire une chose extraordinaire. Et ce qui est aussi très bien dans ce roman, c'est qu'en fait, le narrateur est un des types de la bande. C'est un spectateur, il est un peu à part, il le revendique, et il a un côté particulièrement poétique.
Ça s'appelle « Des rêves à tenir », c'est Nicolas Delot, c'est aux éditions Grasset. N'hésitez pas à le commander auprès de votre libraire indépendant. L'autre livre que tu as choisi, Nathalie, c'est « 5 dans tes yeux ». Alors, lui ou elle d'ailleurs, Adrien Blé, alors j'imagine... Bels.
Adrien Bels.
Adrien avec un H en plus.
Voilà, Adrien Bels, « 5 dans tes yeux ». Alors, c'est édité chez une maison d'édition qui n'est pas forcément grand public, qui s'appelle l'Iconoclaste. Alors,
si tu me permets, quand je vois la couverture où tu vois des jeunes hommes qui sont à quatre sur un scooter, tu as l'impression déjà que c'est un roman de joie de vivre, en fait. On raconte un petit peu une certaine notion de la vie.
Alors, tout à fait. C'est un roman de joie de vivre. Alors déjà, c'est un premier roman. D'accord. Là encore, c'est très important, lors de la rentrée littéraire, de mettre en avant des premiers romans. Donc, ça a fait partie aussi de notre travail au mois d'août. C'est débusquer les premiers romans qui valent le coup. Et celui d'Adrien Bels est une petite pépite. C'est étonnant d'ailleurs que ça soit un premier roman. Alors, en fait, ça se passe à Marseille, aujourd'hui. Et on va suivre le héros, le narrateur qui s'appelle Stress et qui a une trentaine d'années et qui décide de faire, qui souhaite faire un documentaire sur son enfance et sur son adolescence et surtout sur le quartier du Panier. Quartier qui était un quartier populaire et qui progressivement a été bouleversé, entre autres par l'arrivée des Parisiens. Et qui donc s'est boboisé.
Encore eux, quoi.
Encore eux. Enfin, je ne vais rien dire, j'y ai passé quelques années. Mais bon, alors, ce qui est extraordinaire dans ce bouquin, c'est que c'est un bouquin qui a une pêche absolument incroyable, une verve. Ces gamins du panier sont des gamins qui sont juste truculents, succulents. On voit aussi cette appartenance physique incroyable à un quartier, finalement bien plus qu'à Marseille, parce que quand ils vont par exemple à la mer et qu'ils prennent le bus, ils quittent leur pays, ils vont à l'étranger, enfin, c'est quand même incroyable. Il y a deux styles totalement différents. Un premier style écrit, parlé, qui peut être quelquefois cru, qui est foisonnant et que moi je trouve très beau, une très belle oralité, magnifiquement retranscrite. Et puis un deuxième style, c'est quand Adrien Bels parle de Marseille, et là qui est un style beaucoup plus poétique, c'est une déclaration d'amour à la ville. Alors on n'a pas besoin d'être marseillais pour aimer ce bouquin. C'est un bouquin qui est nostalgique. C'est un bouquin aussi, je trouve, qui a un très beau regard sur ces gamins de ces quartiers populaires. Une très belle empathie, on en a besoin. Changer peut-être aussi un peu le regard que certains peuvent avoir sur les quartiers populaires.
Mais excuse-moi, il raconte quoi dedans? Il raconte sa vie de tous les jours?
Non, il raconte sa vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, il raconte qu'ils ont passé l'après-midi sur un banc à papoter.
Mais ça doit être super bien écrit pour que ça passionne de savoir qu'on a essayé de passer...
Mais oui, parce qu'en fait, c'est une écriture qui est une retranscription. Il y a énormément de dialogues. On les voit quand même évoluer. Ils grandissent. Hein, on les prend gamins et là, ils ont tous 30 ans. C'est aussi une façon de voir les autres, une façon de voir la vie. C'est bourré de petites anecdotes. Alors, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe la vie de tous les jours. De gamins de quartier qui vont à l'école ou qui n'y vont pas, qui se disputent, qui, par définition, vont aussi se marier, avoir des enfants, changer de vie. Et puis, c'est aussi comment ils voient toute leur enfance, comment cette impression aussi qu'on leur a volé quelque chose. Finalement, quand on lisait, puisqu'on est à Marseille, on va rester, quand on lit Pagnol. Dans certains Pagnols, enfin. C'est aussi la vie de tous les jours. C'est pas forcément, ça peut être super romanesque, la vie de tous les jours.
Oui, mais c'est super bien écrit. Voilà. C'est ça qui fait en sorte que... Là, on rentre dans un débat, hein, mais...
Oui, alors, évidemment, Adrien Bels, c'est pas du tout la même écriture. Mais c'est pas non plus la même époque. C'est aussi... Alors, bien écrit. Voilà, on va rentrer dans le débat. Bien écrit en fonction d'une époque et puis en fonction de ses propres goûts aussi. Et il faut toujours se méfier en se disant que son goût n'est pas forcément le bon goût et que chacun a le sien.
En tout cas, c'est à lire, ça s'appelle 5 dans tes yeux, c'est Adrien Bels et c'est aux éditions L'Iconoclaste, hein, c'est ça, hein.
Exactement.
Bon, et ben voilà les conseils de lecture pour ce week-end. Alors je tiens à vous préciser, évidemment, les libraires sont fermés, mais la plupart d'entre eux organisent un click and collect. Vous les appelez et vous commandez le livre. Ça peut être à Calligramme ici à Cahors, mais ça peut être aussi aux autres. Il y en a 7, on en a parlé, il y en a 7 dans le Lot. N'hésitez pas, commandez et puis faites un click and collect et comme ça, votre confinement passera très vite. La semaine prochaine, on est avec Cyril d'ailleurs hein, pour le bouquin. Alors, ça va être totalement différent. Merci Nathalie.
Merci et bonne semaine, au revoir.
Et c'est la fin de ce magazine. Dans quelques instants, les infos et la rediffusion à 17h et à 21h30. Bon week-end à vous tous, à lundi.